Bonjour et bienvenue dans l'émission À l'écoute des pères, où nous découvrons les pères de l'Église. Nous avons une première série sur un père cappadocien, Basile de Césarée, un autre père cappadocien aujourd'hui et dans les prochaines semaines, Grégoire de Nazianze, et nous commençons aujourd'hui par voir sa vie et l'œuvre qu'il nous a laissée.
À l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean Charmois.
Bonjour Amaury.
On vous retrouve pour découvrir cet autre père de l'Église, Grégoire de Nazianze, aujourd'hui et puis dans les trois prochaines émissions. Alors on va, comme à chaque fois, on va commencer par le situer. Je l'ai dit, un père cappadocien, donc on imagine qu'il naît en Cappadoce. Et puis on peut dire dès le début de sa vie, vous allez le situer dans le temps, mais une vie d'étudiant, comme un étudiant d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Grégoire est d'une famille aisée, aristocratique. Il est né à Nazianze, qui est une ville de Cappadoce qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Son père...
Peut-être on peut préciser
Il est né en 329, même année que son ami Basile de Césarée. Son père, Grégoire l'Ancien, est l'évêque de la ville de Nazianze. Sa mère, Nona, est une femme... Donc Grégoire l'Ancien, il était païen au départ, hein, donc il s'est converti. Sa mère était elle-même d'une famille chrétienne, Nona. Il a une sœur aînée, Gorgonie, son frère cadet, Césaire. Et son prénom, Grégoire, qui lui a été donné, signifie l'éveillé. C'est, comme on dirait, Bouddha en sanskrit. C'est le mot éveillé, là. C'est un nom symbolique, sympathique. Donc il fait des études dans la ville de Césarée de Cappadoce, c'est la grande capitale de l'époque, de l'Asie mineure. Il y rencontre Basile, et vers 18 ans, il voyage, il va à Antioche, les deux grandes villes, Jérusalem, Alexandrie, il y rencontre probablement Athanase d'Alexandrie, et enfin, il arrive à l'Académie d'Athènes, vers la fin de 350, donc il a 21 ans, et il se lie d'amitié avec Basile de Césarée. Nous en avons déjà parlé à propos de la vie de Basile. Et il se découvre le même idéal de vie philosophique, et pendant que tous ses camarades travaillent sur les lettres classiques et la rhétorique, eux, leur goût principal, c'est la vie contemplative et la vie monastique.
Ils sentent déjà cet appel, tous les deux.
Et enfin, Basile, au bout d'un certain nombre d'années, 8 années de formation, il rentre auprès de sa famille en Cappadoce, et Grégoire reste quelque temps à l'Académie d'Athènes où il est professeur de rhétorique. Puis il rentre ensuite chez ses parents.
Où il sera baptisé, il n'avait pas été baptisé.
Et donc, il s'y fait baptiser, tout à fait. Il s'y fait baptiser finalement, là aussi, assez tardivement. Il est déjà chrétien de cœur, mais il ne baptisait plus tard.
Alors, chrétien de cœur, et déjà avec cette tension aussi en lui, vous l'avez dit, hein, cet attrait pour la vie monastique et pour la vie contemplative. Et du coup, il ressent aussi cette tension entre d'aller plus loin dans cette voie monastique ou le sacerdoce.
Grégoire est un personnage très, très sensible et très, très contradictoire. Il est à la fois... La vie communautaire l'intéresse, la vie monastique pour le silence, pour le retrait, et en même temps il a besoin de parler au monde, de s'exprimer, et donc il y a cette tension qui va être permanente chez lui. Mais avec Basile, ils ont vraiment une amitié très forte, et je lis ce qu'il dit sur son amitié, parce que c'est assez sympathique. Il y avait une lutte entre nous deux pour déterminer celui qui aurait personnellement, non pas la première place, mais le moyen de céder celle-ci à l'autre, car nous faisions nôtre la réputation de l'autre. On eût dit chez l'un et chez l'autre une seule âme pour porter deux corps. Il ne faut pas croire ceux qui disent que tout était dans tout. On doit nous croire quand nous disons que nous étions l'un dans l'autre et l'un aux côtés de l'autre. Nous n'avions tous deux qu'une tâche, pratiquer la vertu et vivre en vue des espérances futures, détachées d'ici, avant de partir d'ici. La grande affaire pour nous... Et le titre suprême consistait à être chrétien et à en porter le nom.
Une belle amitié qui les construit, qui les façonne l'un l'autre. Finalement, ils vont arriver l'un et l'autre à poser un peu les choix.
Donc Basile convainc Grégoire de devenir prêtre. En fait, le problème qui va se présenter, c'est que l'empereur d'Orient, Valence, qui est un empereur arien, a besoin, pour des raisons fiscales, de découper ces provinces en deux pour augmenter les impôts et aussi pour limiter l'influence de Basile, qui est une influence orthodoxe contraire aux Ariens. Et donc, il va découper la Cappadoce en deux et Basile va essayer de mettre la main, en quelque sorte, sur les évêques de la province la numéro 2. Et il va persuader Grégoire de devenir évêque de Sasime, une ville qui est située dans la deuxième Cappadoce. Mais Grégoire va accepter de le faire, mais il va digérer très mal cette pression de son ami. Et en fait, il ne mettra jamais les pieds dans son évêché. Et il revient épauler son père à Nazianze.
Et ensuite, il part pour Constantinople.
Constantinople. Alors, Grégoire est sollicité pour participer aux luttes qui ont lieu à Constantinople entre les Ariens et les orthodoxes. Enfin, on les appelait pas les orthodoxes, on les appelait les Nicéens, ceux les partisans du Concile de Nicée. Et donc, Grégoire, sur le conseil de Basile, rejoint la capitale. Il est dans la capitale, dans une petite église qui s'appelait l'Anastasia, sachant que toutes les églises étaient occupées par la doctrine arienne, par des évêques de la doctrine arienne. Et donc, Grégoire est à l'Anastasia, il écrit une grande partie de ses discours et de ses écrits théologiques. Et son influence croît beaucoup entre les années 1379 et 380.
C'est de cette époque-là où il écrit beaucoup et des écrits qui nous sont parvenus.
Il écrit beaucoup, il écrit beaucoup de discours et puis ces fameux discours théologiques qui vont lui conférer le nom, pour la postérité, le nom de Grégoire le théologien. À la Pâque 379, il est en train d'officier, il est accusé d'hérésie, il est exclu violemment de son église par les Ariens en pleine liturgie, on veut le lapider. Il dit « Je fus reçu avec des pierres comme d'autres sont reçus avec des fleurs ». Il est même accusé d'assassinat, mais il est acquitté devant un tribunal. Alors il veut fuir Constantinople parce qu'il en a marre, et ses fidèles le retiennent. Il lui dit « Père, si vous nous abandonnez, vous allez chasser la Trinité ». Parce que Grégoire était le champion de la Trinité.
Contre l'hérésie arienne.
Là, il y a un tournant. En 380, l'empereur Théodose, le Grand, on l'a surnommé le Grand, tombe malade et se fait baptiser selon le credo du Concile de Nicée. Et son baptême change radicalement le rapport de force entre les Ariens et les Nicéens. Théodose, en plus, publie un édit qui est célèbre, un édit thessalonique, qui fait du christianisme la religion officielle. Jusqu'à Théodose, le christianisme était toléré. Il était admis comme une autre religion. Mais là, d'un seul coup, le christianisme, et plutôt le christianisme catholique, puisque c'est le mot qui est employé, devient la religion officielle de l'Empire romain.
Est-ce que ça veut dire que c'est là aussi où Grégoire va pouvoir encore plus se déployer proposer son enseignement sur différents sujets de la vie de l'Église ?
Tout à fait. Donc il va être reconnu et Théodose va essayer de le pousser pour devenir l'évêque de Constantinople, ou l'archevêque de Constantinople. Et en remplacement de l'évêque arien Démophile que Théodose fait chasser de son église. Il faut voir que les empereurs à cette époque intervenaient beaucoup dans la vie des églises.
Alors il y aura un concile, le premier concile de Constantinople, mais apparemment les évêques vont pas forcément être favorables à la nomination de Grégoire. Qui va partir à ce moment-là.
Donc Grégoire va être en proie à des hostilités de différents bords. Nous en parlerons dans une prochaine émission. Grégoire démissionne et il dit « Nous avons divisé le Christ. Nous qui aimions tellement Dieu et le Christ, nous nous sommes mentis les uns aux autres pour des motifs de vérité. Nous avons nourri des sentiments de haine à cause de l'amour. Nous nous sommes séparés les uns des autres. »
Donc il se met un peu en retrait à partir de ce moment-là, mais il continue de beaucoup écrire. On aura l'occasion aussi d'en reparler sur tout le contenu de ce qu'il nous a laissé. Comment on peut la décrire rapidement comme un résumé, puis on la détaillera dans les prochaines émissions. Cette postérité, qu'est-ce qu'on peut en garder de Grégoire ?
Alors, il nous laisse 45 discours, y compris les 5 discours, les fameux discours théologiques. Il est admiré pour la beauté de son style littéraire. Il a une prose extrêmement riche à la lumière des poètes élégiaques païens ou d'Homère, par exemple. Il s'inspire beaucoup d'Homère, ainsi que par sa profondeur spirituelle. On a gardé 242 lettres de Grégoire, dont certaines ont une grande importance théologique, et surtout, c'est un vrai et grand poète, 18 000 vers, ouvrant son cœur et ses émotions, Et là, c'est peut-être la qualité principale ou la caractéristique principale de Grégoire, c'est que c'est un écrivain qui parle de lui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un du coup de très sensible ?
Extrêmement sensible, mais en même temps plein de contrastes et de paradoxes. Il écrit « je », ce qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque. On va le retrouver ça avec Augustin, qui écrira ses confessions. Mais Grégoire est particulièrement accessible aux modernes, justement, parce qu'il parle de « je ». Il était poète, donc il contemple dans la poésie Dieu, le monde, l'homme. Et il est tiraillé sans arrêt, ce qu'on avait déjà dit, entre son souci de la parole, qui doit être adressé aux hommes, et son besoin de solitude et de silence.
Il choisira pas, finalement, toute sa vie entre ces...
Toute sa vie, il va être partagé. Et on peut dire que sa vie ne fut pas une vie heureuse. Il est très, très mélancolique, hein, sur sa manière de parler. On ne peut pas dire que, à l'inverse, que c'est un saint qu'on a auréolé de tous des prestiges miraculeux. Il a laissé tellement d'éléments sur lui-même et sur sa vie qu'on ne peut pas le qualifier d'un homme ayant un thaumaturge qui aurait accompli des merveilles et des miracles, etc. On voit à travers un véritable homme confronté à des difficultés personnelles, des revers, des hostilités, des souffrances. Donc,
Et à travers tout ce chemin de croix, on pourrait dire, c'est un passeur, Grégoire.
Voilà, c'est un passeur d'une part, c'est un spirituel, mais il fait rentrer sa vie active, sa vie personnelle dans la vie contemplative. Et inversement, il n'y a pas de différence entre sa vie et la contemplation de Dieu. Il est grec, mais il fait passer l'hellénisme dans le christianisme. Il va traduire Dieu dans le langage humain, c'est un nouveau type d'incarnation. Et par ses écrits et sa mystique, il fait se mêler ensemble le monde d'ici-bas, celui d'en haut, l'éternité de Dieu et le temps des mortels.
Donc on en comprend toute l'importance et on continuera de le découvrir dans les prochaines émissions. Merci beaucoup Jean Charmois, à la semaine prochaine.